Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et pour m'accompagner avec moi, il y aura Maxime. Maxime, comment tu vas ?
Salut Dusty, salut. Bon Steve, ça me fait plaisir de pouvoir commenter avec toi et bonjour à tous.
Nice. Et Steve, comment tu vas toi ? Tranquille ?
Salut Dusty, salut Max, salut à tous. Bah, ça va très bien, heureux d'être de retour.
Yes, content d'entendre ta voix.
Pour parler de Ligue 1, quoi de mieux ?
Parfait. Alors aujourd'hui, on va commenter deux matchs en particulier, donc Toulouse-Lorient et l'Olympique de Marseille face à Rennes. Donc on va commencer par le premier match, hein, Toulouse-Lorient, juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Toulouse-Lorient, aujourd'hui, ça va être le 18e de Ligue 1 qui va affronter le 16e de Ligue 1 qui va affronter le 15e de Ligue 1. Donc deux équipes qui sont très très proches, hein, qui se séparent que d'un petit point. Généralement les Toulouse-Lorient, c'est des matchs assez, on va dire, à l'avantage de Lorient plutôt à l'avantage de Toulouse l'année dernière qui avait gagné 1-0 au match retour. Ils avaient fait match nul au match aller. En Coupe de la Ligue, c'est Lorient qui l'avait emporté. Donc ça reste quand même assez équilibré entre les deux. Mais c'est surtout deux équipes qui sont en danger. Deux équipes qui sont censées être ambitieuses, qui ont fait des mercatos pour leur niveau, qui sont assez ambitieux, mais au final qui ne s'y retrouvent pas. Maxime, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que toi tu attends de ce match Toulouse-Lorient ? Alors c'est pas les équipes de l'année dernière, mais est-ce que tu t'attends déjà un beau match, un match ouvert, un match avec des buts, parce que c'est quand même des équipes qui encaissent beaucoup de buts.
Ben, c'est vrai que tu as totalement raison sur le fait qu'ils encaissent beaucoup de buts, déjà, parce que Lorient a la pire défense de Ligue 1, avec 24 buts encaissés, c'est vrai que ça fait beaucoup sur aussi peu de journées, on va dire. Ça devrait être un match où deux équipes ont peur, où on sait qu'il y a des descentes, ça va faire mal, justement, je pense, à ces deux équipes. Après, on a d'un côté Toulouse qui a un match de Coupe d'Europe cette semaine, donc qui aura joué peu de temps avant. Lorient part du coup avec un petit peu plus de repos et de fraîcheur, on va dire. Là, on a vu sur le dernier match que Lorient avait réintégré deux joueurs, Gerbic et Bamba Dieng. Ça faisait Gerbic le premier match de la saison, Bamba Dieng ça faisait 3 mois qu'on ne l'avait pas vu, donc c'est vrai que c'était compliqué pour eux pour un début. Ça va être un match, pour moi, qui va être assez tendu, mais avec un petit peu d'animosité, parce que les deux équipes vont vouloir ne pas perdre, et peut-être potentiellement essayer de gagner pour Lorient, je pense.
Ok. Juste pour rappeler, lors de la dernière journée, donc Lorient s'était incliné à domicile 2-3 face à Metz, et de son côté, Toulouse s'était incliné face à Nice à 0-1, un match malheureux, on peut dire, parce qu'il y a un but toulousain qui a été refusé, donc je trouve un peu difficile la décision de l'arbitre d'avoir refusé ce but. Hein. Toulouse, ça reste quand même une équipe qui, et on l'a vu aussi contre Nice, qui joue, enfin en tout cas qui tire beaucoup, qui se procure des occasions, mais qui a du mal à marquer. Aujourd'hui, Toulouse, ils ont mis que 13 buts, il me semble. C'est ça, 13 buts. C'est quand même assez faible. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque de Toulouse, Steve, qui est généralement composée, on va voir le retour de Dalinga, hein, qui était suspendu le match dernier. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de cette attaque de Toulouse, Dalinga, Magri, qu'est-ce que tu attends de exactement?
En fait, c'est une attaque toulousaine qui manque d'efficacité. Comme tu l'as dit, ça marque 13 buts depuis le début de saison, c'est pas beaucoup. Tu sens que cette équipe se charge beaucoup, qu'il n'y a pas de lien non plus dans cette équipe. C'est, euh, c'est beaucoup de d'actions individuelles ou de choses comme ça qui font que cette équipe arrive à jouer. Toulouse ne produit pas du beau football cette saison. C'est assez triste à voir jouer, c'est assez morose. Tu sens que le milieu de terrain prend l'eau, qu'on cherche encore la formule, comment marcher, comment bien faire jouer ce milieu de terrain avec le retour de Spierings. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, on va avoir le retour de cet attaquant toulousain. On
Dalinga.
verra bien que ça. Dalinga, pardon, j'avais oublié le nom pendant une seconde.
Mmh.
On verra bien ce que Dalinga va donner lors de son retour. Mais moi, ce qui me fait le plus peur avec Toulouse, c'est la défense. On l'a vu contre Nice, c'est une défense qui est parfois très attentiste. Ça attend beaucoup, ça joue très bas, ça a peur de se faire prendre dans le dos. Donc, du coup, ça ne va pas sur le porteur du ballon. Mais du coup, comme ce milieu de terrain est assez volatile et ce milieu de terrain n'est pas très très performant, il n'a pas beaucoup de volume, je trouve. Ça crée des gros espaces et du coup, on l'a vu contre Nice. Hein, ça fait plaisir, ça tire de loin et c'est ce qui est le point le plus alarmant pour moi avec Toulouse.
Mais en plus, ce qui est bizarre avec Toulouse, c'est que malgré le fait que l'effectif, enfin en tout cas le 11 ait beaucoup changé, hein, je crois qu'il y a eu 13 compos différentes sur les 13 premières journées, hein, donc jamais on a vu deux fois la même équipe. Alors du fait des blessures, du fait de certains départs et arrivées tardives, notamment le retour de Spiering par exemple, on a toujours vu quasiment Nicolas Hyssen, Dessler, Logan Costa et Soizon en défense. Donc est-ce que tu es d'accord, toi, avec Maxime, Steve, sur cette défense au final qui, alors certes, ils prennent 17 buts, c'est vrai que c'est beaucoup, mais est-ce que toi, tu es d'accord avec Steve, sur cette défense toulousaine qui est plutôt fébrile?
Bah, je trouve que déjà, il se base sur un gardien qui est très jeune.
Ouais, il reste.
Guillaume Restes, c'est vraiment un jeune gardien. Après, quand on voit la défense Nicolas Hyssen, Logan Costa, je trouve que ça n'a pas trop bougé par rapport aux années précédentes. Ils ont perdu ils ont uniquement perdu leur défenseur central Anthony Rouault, qui était très bon, qui est parti à Stuttgart. Mais à part ça, c'est vrai qu'on se base quand même sur une défense qui a les mêmes atouts que l'année dernière. Même si bon, il y a Kevin Keben qui joue pas trop, il y a Gabriel Suazo qui est vraiment devenu titulaire indiscutable. Mais je trouve que c'est une défense qui manque peut-être de maturité, mais qui a quand même l'habitude de jouer ensemble. Je trouve que ça pêche plus au milieu en attaque à Toulouse comparé à la défense. Pour moi, c'est pas le chantier numéro un à Toulouse de revoir la défense.
Ah, c'est plutôt
C'est pas tant la défense que le lien au milieu de terrain, tu vois. C'est T'as l'impression que cette défense, ils ont quatre derrière, que t'as. Il manque parfois un peu de support ou de soutien au milieu de terrain. Tu sens qu'en fait, ils ont peur de sortir sur le porteur du ballon parce que tu sais, t'as l'impression que dans leur tête, ça va pas couvrir derrière. Donc, du coup, faut pas trop qu'ils s'exposent parce que sinon, derrière, ils prennent un contre ou ils prennent profondeur. C'est un peu ça le ressenti que j'ai eu en regardant cette équipe toulousaine, c'est que ça sort très peu sur le porteur du ballon, ça attaque très peu. Donc, je dis pas que la défense est catastrophique, loin de là, parce que. Ça prend pas non plus énormément de buts, même si ça en prend quand même pas mal. Comme tu l'as dit, ça change pas beaucoup. T'as Soizo qui est devenu titulaire indiscutable. T'as Diarra qui fait très bien le travail sur le côté gauche aussi. Mais le problème, c'est plus que tu sens que tu as une fébrilité peut-être mentale. Comme tu l'as dit, ça manque, c'est jeune, peut-être ça manque un peu de maturité. Tu sens qu'ils ont peur de sortir sur le ballon. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que en face ce
Ouais.
week-end, vas-y, Maxime, je te laisse
Vas-y,
répondre.
vas-y. Bah, c'est surtout que le milieu de terrain, pour moi, quand ils ont perdu leur milieu avec Vandenboomen, Spierings et De Jager, c'est vrai qu'il y avait énormément d'automatisme. Il y a eu énormément de changements, je trouve, au milieu et offensif à Toulouse. C'est vrai que ce qui est arrivé devant, il y a Dounoum, il y a Magri. Il y a quand même pas mal de mecs qui sont arrivés, les Begraoui qui sont revenus, Mamadi Bangré, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont revenus. Et donc c'est vrai qu'il y a peu d'automatisme, je trouve, au milieu de terrain et devant. Et donc c'est la défense qui en pâtit parce que bah, ils gardent pas forcément assez le ballon et il n'y a pas d'automatisme au milieu et devant. Et donc malgré une défense sereine et cohérente et justement qui a l'habitude de jouer ensemble, ça revient souvent sur leur but.
Ouais, parce que là, c'est vrai que le milieu de terrain, principalement, on va dire, qui est là pour protéger la défense, ça va être Spiering et Caceres. Caceres, pour l'instant, qui est quand même à 2 passes décisives, donc c'est plutôt pas mal, mais défensif, enfin, en tout cas, offensivement, bah, à Toulouse, ils ont un peu des difficultés. Alors, on a vu que Dalinga avait réussi à marquer, enfin, à retrouver le chemin des filets, mais c'est vrai que, à part Dalinga, au niveau des buts, bah, c'est Magri derrière avec 3 buts. Après, t'avais Aboural avec 3 buts. Et puis derrière, c'est Gelabert, un but. Donc ça aussi, ça fait peut-être, c'est peut-être aussi le défaut d'un Toulouse aujourd'hui qui se procure beaucoup d'occasions, puisque moi, quand je regardais le match de Nice, Toulouse, c'était pas si dégueulasse que ça, hein. Ils ont 19 tirs pour 3 cadrés, mais au final, c'est que un but. Donc c'est peut-être là aussi où, voilà, comme vous le dites, ça manque de maturité. Alors qu'en face, ils vont rencontrer une équipe de Lorient, bah une équipe de Lorient déjà qui marque un peu plus, ouais, qui marque un peu plus, puisque actuellement elle est à 17 buts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle tente à peu près 9 tirs pour 17 buts pour. Donc au final, vous pensez que voilà, comment cette attaque de Lorient, elle va pouvoir se débrouiller face à cette défense toulousaine? Est-ce que vous pensez que voilà, un Fèvre qui a été très bon le match dernier, donc qui a mis un but et on peut considérer que c'est une semi-passe décisive ce qu'il a donné à Kroupi, est-ce que vous pensez que cette attaque lorientaise, elle va pouvoir être dans cette continuité et enfin cette continuité offensive? Je vais commencer par toi, Steve.
Bah oui, je le pense, ça, je le pense, ouais, sérieusement, parce que Lorient, le volet offensif n'a jamais été le problème cette saison. Ça a toujours été un peu le mental et la défense, comme on l'a dit juste avant, est catastrophique et prend un but par match minimum, même plus d'ailleurs. Le seul match où ils prennent pas de but est contre le PSG en ouverture de championnat. Mais ouais, c'est la défense qui est catastrophique, mais offensivement, Fèvre s'amuse beaucoup. Kroupi fait des matchs corrects. T'as Ponceau aussi qui est pas mal, qui est pas mal aussi. Le milieu de terrain est assez costaud aussi. Mais le problème, voilà, c'est cette défense est catastrophique là. Du côté de Lorient, on le sait. On en parlera peut-être après. Mais offensivement, ouais, on va avoir une belle équipe lorientaise parce que le jeu de Lebris, pardon, est toujours porté sur l'offensive. Toujours essayer de jouer. Porter le ballon vite et essayer de marquer le plus de buts possible. Et ça marche parce que Lorient marque beaucoup.
Bah, pour vous donner une petite stat, avant de te lancer, Max, Lorient, ils ont perdu 25 points après avoir mené au score. Enfin, je trouve que c'est énorme. Alors, je sais pas à toi ce que t'en penses cette équipe lorientaise, Max, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est une équipe qui ne sait pas tenir ses matchs. Dis-moi, toi, t'en penses quoi?
Ben, moi, je dirais que c'est carrément en fait l'inverse de Toulouse. C'est que offensivement, ils ont énormément de joueurs. Il y a Kroupi que je trouve très bon, qui enchaîne les matchs, qui marque pas mal. Il se base aussi sur beaucoup de jeunesse, mais c'est vrai que la jeunesse offensive et la jeunesse défensive n'est pas la même, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de la même maturité et de la même fougue pour un joueur offensif et défensif. Eux, offensivement, il y a ce qu'il faut. Il y a du Kroupi, il y a du Sirigné Doucouré. Il y avait un joueur que je trouvais très bon au début de saison, Tosin, qui est malheureusement blessé. Il y a là le dernier match, ils ont fait rentrer Dieng et Gerbic. Enfin, c'est vrai qu'offensivement, il y a du poids et il y a quand même pas mal de monde. Mais par contre, eux, ce qui leur manque, c'est défensivement. Défensivement, c'est vrai que sur des joueurs. On va dire en demi-teinte, il y a Benjamin Mendy qui est revenu. Après, c'est compliqué de le juger parce que bon, c'est vrai que lui, il y a eu d'autres problèmes. Mais des joueurs comme Formose Mendy, Zach Touré, qui n'ont pas forcément d'automatisme ensemble. Donc, c'est vrai que je trouve ça compliqué. Et le gardien, Yann Vogo, personnellement, je suis pas fan. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Je crois qu'ils jouent beaucoup avec Yongwa. C'est des joueurs qui, pour moi, n'ont pas forcément la qualité que la par rapport à la différence de ce qu'ils peuvent avoir au milieu de terrain et offensivement. Parce que c'est vrai que au milieu de terrain, il y a quand même pas mal de monde. Quand on prend Bakayoko, quand on prend Dembo Sila, quand on prend Jean-Victor Makengo, il y a le petit Eman Kari aussi qui est blessé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualités, ou en tout cas des joueurs qui ont la qualité pour se maintenir à Lorient, offensivement et au milieu de terrain. Mais par contre, c'est la défense qui pêche. Donc, total inverse de Toulouse.
Ah, parce que t'as un Tossin aussi
Il est
qui
assez
est.
catastrophique, hein.
Ouais, mais après, si, tu parles
Mbondi,
duquel, Mendy?
il y a eu des circonstances. Benjamin. C'est assez catastrophique, hein. Tu vois que c'est. Faut que ça reprenne du temps. Faut que ça reprenne du temps de jeu. Bon. Performance Mendy fait le taf aussi. Mais bon. Enfin, en fait,
Bah après,
c'est compliqué de
Formos,
trouver
il
des joueurs.
concède un penalty hein, au dernier
C'est
match.
ça, c'est compliqué de trouver des joueurs qui font le taf en défense à Lorient parce que toute la défense prend l'eau en fait. C'est le problème en fait de ce côté orienté, comme tu as dit, c'est l'anti-Toulouse. C'est indescriptible. Cette équipe lorientaise, la saison dernière, fait une très bonne saison, assez plaisante à jouer. Et cette saison, sans avoir perdu trop de joueurs de mémoire, j'ai plus les noms en tête, mais tu as l'impression que cette équipe, elle est dévastée quand elle sait plus jouer au football en fait. Défensivement, pardon.
Bah surtout, en plus ce qui est assez marrant, c'est que d'habitude ils jouent à 3 derrière Lorient. Cette fois ils ont joué à 4 et ils en ont pris 2. Donc 3 pardon. Donc ouais, c'est là tu te poses la question, est-ce que c'est bah la tactique, est-ce que c'est les joueurs? Enfin là tu te dis bah c'est les joueurs, ils ont clairement un problème, il y a clairement un problème défensif au niveau des joueurs, ils ont plus de confiance. Et pour continuer sur ce que tu disais, confirmer ce que tu disais Max sur Mvogo, malgré le fait qu'il fasse beaucoup d'arrêts, puisqu'il fait quand même 4,5 arrêts par match hein, donc c'est quand même un gardien qui est très sollicité, il prend 1,8 buts par match, et en but évité, il a moins 0,15. Donc, il est peut-être pas aidé par sa défense aussi, mais on va dire qu'il aide pas son équipe. Ok. Du coup, pour faire un peu un point, vous, sur ce match, vous vous attendez à quel résultat? Je vais commencer par toi, Max.
Au vu de la défense, lorientaise qui est quand même très mauvaise, je les vois encore encaisser un but. Malgré la bonne attaque, je dirais un 2-1 pour Lorient parce que je trouve qu'ils ont une belle armée offensive et que Toulouse, avec le match qu'ils ont en semaine, va pouvoir leur jouer des tours. Donc je dirais 2-1 pour Lorient.
Ok. Max, Steve, pardon.
Moi, je dirais pareil, 2-1. Parce que, comme tu l'as dit, la défense lorientaise prend l'eau à chaque match. Donc, prendre un but, c'est inévitable pour eux. Il y a une très belle équipe offensivement avec Fèvre qui est en feu. On l'a vu contre Metz. Donc, ouais, 2-1. 2-1 Lorient.
Ouais, c'est vrai que Fèvre, il a fait un bon match, un bon dernier match, hein. Mais
En
c'est
fait,
vrai que
il s'est pas
c'est pas
fauché comme
facile.
ça, il a deux buts hein, sur ce match.
Ouais, complètement. Mais
Il
c'est
se
vrai
fait
que c'était pas
abattre dans la
facile.
défense, il y a des.
C'est vrai que c'est pas facile ce match, hein. Je suis d'accord avec vous dans le sens où on a deux équipes qui s'opposent, l'une qui a une bonne attaque mais qui sait pas tenir le score, qui a une défense en carton, et l'autre qui est certes, voilà, ils encaissent quand même voilà 17 buts, hein, ça te fait un but par match, mais qui a beaucoup d'occasions offensives mais qui marque assez peu, qui a du mal à concrétiser ses actions. Certes, il y a le retour de Dalinga. Alors déjà c'est sûr qu'il va y avoir du but. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Moi je dirais un petit allez on va faire le Suisse, un petit 2-2. Ouais. Ouais, 2-2 ouais, un 2-2.
On s'amuse à donner les buteurs ou pas?
Allez, on peut essayer. On peut essayer bon déjà sûr moi je vois Dalinga d'un côté et Fèvre de l'autre, ça sûr et certain. Ensuite, qui pourrait marquer du côté toulousain? Ah, c'est pas facile après derrière. Hein. Je pense pas, je vois pas Dieng. Déjà, s'il joue plus de 10, 15 minutes, ce serait pas mal, puisqu'il revient quand même d'une grosse blessure. Ah, pas facile. Ah, j'avoue, là, je cale un peu sur mes deuxièmes buteurs. Je vous laisse prendre la main, je réfléchis un peu là.
Steve, tu veux y aller?
Ben moi, je dirais Fèvre, parce qu'il est en feu dernièrement, donc je pense que ça pourrait le faire. Et. Bon, allez, ju juste pour rejouer le mec, Cyrine Doucouré, côté Lorient. Et côté le buteur, côté Toulousain, c'est compliqué aussi, côté Toulouse. Hein, donc, moi je dirais peut-être Siro, côté Toulouse.
Ah, pas mal, pas mal.
Ben moi, je vais être assez offensif, on va dire. Je vais dire doublé d'Elie Kroupi et le but de Dalinga. Les attaquants de pointe, je trouve que ce sont des joueurs qui ont les capacités pour marquer et qui peuvent déstabiliser les défenses. Donc, je vais rester sur les deux attaquants de pointe.
Ok. Alors moi je vais aller sur mes deuxièmes buteurs, je vais essayer de vous surprendre un peu. Pourquoi pas un petit Logan Costa sur corner. Je sais qu'il l'a déjà fait cette année de la tête. Donc pourquoi pas. Et côté lorientais, vas-y, je vais te suivre sur Croupy. J'aurais bien dit Tosin, mais Tosin est incertain. Donc allez, Fèvre Croupy d'un côté et Costa Dalinga de l'autre pour moi. Ok, bah merci à vous messieurs. On va passer au second match, donc l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Donc là aussi, on a quand même deux équipes qui s'opposent en fait dans leur trajectoire actuelle. Donc d'un côté, on a le Stade Rennais qui vient de changer de coach, exit Pep Genesio, welcome back, j'ai envie de dire Mister Stéphane, hein, qui retourne à la maison et qui a notamment gagné 3-1, si je me trompe pas. Ouais, si je me trompe pas, il a bien, c'est ça, il a gagné 3-1 le match dernier face au Stade Rémois, face au Stade Rémois, ouais, c'était Stade de Reims, pardon. Et de l'autre côté, on a l'Olympique de Marseille qui a fait match nul face à Strasbourg, qui est, on va dire, aujourd'hui dans une certaine difficulté, puisque, on le rappelle, alors je t'ai envoyé un petit pic aujourd'hui, Steve, sur Marseille, mais Marseille actuellement est 12e du championnat à 14 points, donc il est à 3 points de Lorient qui est 16e, et Rennes qui est actuellement à 15 points et qui est 10e. Alors, je vais commencer par toi, allez Steve, on va commencer par parler un peu de Marseille. Moi, la question d'abord que j'ai envie de te poser, c'est où va Marseille? C'est quoi le style de jeu de Marseille? Qu'est-ce que Gattuso essaye de faire? Alors, c'est vrai que c'est pas son équipe, il l'a pas construite, il reprend l'équipe en cours. Ça met du temps à construire quelque chose, mais généralement, il n'a pas non plus un effectif qui est complètement nul. Et normalement, on doit avoir des petites choses. Là, pour l'instant, moi, avec Marseille, je sais pas du tout vers où il se dirige. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi? Qu'est-ce que tu penses de ce Marseille, vers où il
Ben, j'aimerais bien le savoir.
va?
Pour répondre à ta question, j'aimerais bien le savoir aussi. Parce que j'ai l'impression que l'OM ne va nulle part. Comme l'a dit Gattuso en conférence de presse, il ne veut pas de choristes dans l'équipe et il a l'impression que c'est des choristes. C'est des mecs qui parlent beaucoup mais qui font pas grand-chose sur le terrain. C'est des mecs qui manquent de caractère mais ça joue les gros bras. C'est assez contradictoire cette équipe. La seule personne qui parle et qui agit, c'est Gigot, comme l'a mentionné Gattuso. C'est triste, c'est une défense qui est un peu à la ramasse, et on se cherche un peu, on ne sait pas trop comment il faut jouer. Tu as l'impression qu'en fait Gattuso n'a pas encore bien la main sur l'équipe. Tu sens qu'il n'a pas réussi à montrer son plan de jeu, il ne sait pas encore vraiment où amener cette équipe. Mais en même temps, c'est totalement contradictoire. Parce qu'en Coupe d'Europe, Marseille est premier de son groupe. Marseille joue bien, Marseille bat Brighton. C'est contradictoire, c'est l'OM, c'est la magie de l'OM. C'est en Ligue 1, ça se fait taper par Lens, ça finit à Strasbourg et ça va battre Brighton. C'est Marseille. C'est une défense qui a la ramasse, mais en Coupe d'Europe, ça prend pas de but. C'est Renan Lodi qui sait pas jouer au football, mais qui arrive à faire des passes, à faire des passes décisives. C'est contradictoire, c'est l'OM, c'est la magie de l'OM, et c'est pour ça qu'on aime ce club.
Ouais, c'est sûr. Après, pardon?
Pour ça que tu aimes ce club. Attention.
Ouais, ce que. Ouais, c'est ça. Calme-toi. Ouais. Nous emmène pas dans tes galères là. Mais ouais, bah c'est un peu ça parce que là aujourd'hui on a des attaquants qui ne marquent tout simplement pas. Alors les derniers attaquants qui ont marqué, c'était Aubameyang et Sarr. Donc c'était contre je me souviens un peu contre qui c'était, mais c'était le premier but d'Aubameyang d'ailleurs.
Je crois que c'était Le Havre.
Exactement. Ouais. C'était Le Havre le 8 octobre. Avant ça, il y a eu quand même 3 matchs sans marquer avant Strasbourg, ce qui est quand même beaucoup sans que les attaquants marquent. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de l'OM. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est un Klos et un Lodi qui sont des latéraux, donc qui n'ont pas, voilà. Alors, qu'ils soient bons, c'est bien, mais voilà, c'est pas eux qu'on attend le plus. T'as un Balerdi qui est
Chancel.
Très moyen. Ouais, Chancel aussi, ouais, qui est pas mal. Alors, Gigot revient parce qu'il était absent au dernier match contre Strasbourg. Gigot va revenir. On va voir comment il va composer son équipe. Mais voilà, Balerdi qui est coupable.
On va montrer à Balerdi c'est quoi un défenseur central, tu vois.
Ouais, puisque Balerdi est coupable sur le but strasbourgeois quand même. Hein, c'est lui qui fait la mauvaise relance.
C'est plus Lodi qui a la ramasse au début de l'action. Donc t'as Balerdi qui doit couvrir.
Ah mais Balerdi il loupe sa relance.
Le joueur. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'as Lodi qui est beaucoup trop haut pour une relance déjà. Donc derrière après ouais. Il revient pas. T'as Balerdi qui est obligé de couvrir. Et c'est comme ça après même Lodi relâche le joueur, il n'y va pas. T'as Chancel qui fait un tacle de l'autre bout de la surface de réparation pour essayer de sauver le ballon, mais c'est beaucoup trop tard. Non, pour moi,
donc
aussi, c'est plus logique que Balerdi.
Ok. Du coup, toi, Max, bah, je te lance sur le sujet. Ce Marseille, qu'est-ce que tu peux en retirer, en fait, après ces matchs, ces quelques matchs de Gattuso à la tête?
Ben, je dirais qu'en fait, les deux Olympiques m'impressionnent. Pas dans le bon sens du terme.
Ce que j'allais dire.
Parce que je trouve qu'en fait.
Par contre, si tu commences à mettre Marseille et Lyon sur le même bateau.
Attends, laisse-le finir.
Je dirais que les deux équipes ont un effectif avec énormément de qualité. Franchement, il y a une profondeur de bond dans les deux clubs où c'est assez fort. Il n'y a pour moi rien à changer au niveau des joueurs, mais par contre ça ne prend pas, donc après c'est dans la tête, c'est dans la tête. Lyon encore plus profond, mais c'est vrai que Marseille se réveille, comme tu l'as dit Steve, avec la Ligue des Champions, mais en soi, avec l'Europa League, pardon.
Europa,
mais,
c'est vrai que d'être en Champions, mais on n'y est pas.
Ça sera pas pour l'année prochaine, je peux te l'assurer. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage, parce qu'il y a un effectif avec pléthore de qualité, enfin, quand on prend tous les joueurs qu'il y a, défensivement parlant, au milieu de terrain, offensivement parlant, il y a quand même de quoi changer les choses et essayer de faire des dispositifs un peu différents s'il y en a qui ne sont pas en forme. Et pourtant, la mayonnaise ne prend pas. Donc, est-ce que le coach est un mauvais cuisinier? Peut-être. Mais à un moment, quand on a déjà changé de coach durant le début de saison, que c'est le deuxième. Est-ce que faut pas qu'il y ait quelqu'un qui pète un coup de gueule dans le vestiaire et qui lui dise que maintenant bah faut redescendre et aller au charbon? Je pense que dans les deux Olympiques, c'est ce qu'il faut faire, parce que il y a des joueurs de qualité, il y a tout pour réussir, je pense, mais malheureusement ça ne prend pas.
Est-ce que
je l'avais dit qu'il y avait des coups de gueule,
Steve...
il y avait des joueurs de caractère, pardon.
Juste, bah justement, je vais te lancer dessus. Est-ce que le recrutement, il n'y a pas eu voilà, une erreur sur le recrutement? Les Correa, Aubameyang, bon, Vitinha est arrivé l'année dernière, Kangombia. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur sur le recrutement cette année? Ou même sur,
sur le
ou
recrutement,
alors
pas vraiment. Quand
si
tu
sur
prends
le
les
choix
noms,
du coach. Ou sur le choix du coach.
individuellement, ça va. Kondogbia, quand il arrive à Marseille, on se dit, ouais, c'est un putain de gros coup. Aubameyang, quand il arrive, on se dit, ouais, c'est un putain de gros coup. Le problème, en fait, c'est pas vraiment les joueurs, c'est plus le caractère que ces joueurs montrent sur le terrain. C'est des joueurs qui ont joué pour des gros clubs, qui ont gagné des trophées, qui ont déjà fait leur carrière, plus ou moins. Et en fait, on a l'impression qu'ils se reposent un peu sur ça. Donc, les mecs, au lieu d'être les meneurs qu'ils devraient être, j'aime bien l'expression de Gattuso, c'est des choristes, en fait. Ça gueule dans le vestiaire, mais ça montre rien sur le terrain. On le voit avec des verres et tout, on le voit avec Correa, comme tu l'as dit, Correa, c'est très jeune, ça montre pas grand-chose encore pour le moment. Mais Aubameyang, j'en attendais plus. Kondogbia, j'en attendais un peu plus. Chancel, même si je l'adore, sur le terrain, parfois, tu as l'impression que lui aussi, il est un peu sur les nerfs, il est un peu en tension. Tu as l'impression que ces mecs-là n'ont pas le mental pour aller où Gattuso veut les emmener. Gattuso, c'est un mec qui aime bien quand son équipe attaque le ballon, attaque l'homme, soit dur sur l'homme. Et tu as l'impression que ces mecs-là, les joueurs qu'on voit sur le terrain, ils ont un peu peur d'aller au contact, d'être durs, de gueuler, de jouer le jeu le plus fort, en fait. T'as l'impression que ces mecs-là ont peur de jouer au plus fort sur un terrain de football. Et du coup,
Mais
je pense que c'est ça le problème. C'est le match entraîneur-joueur sur le terrain.
du coup, après Marcelinho, est-ce que c'était pas une erreur de prendre Gattuso? Parce que tu as quand même deux logiques différentes. Est-ce que ça n'a pas été ça? Si le recrutement au final sur le papier est bon, est-ce que l'erreur n'a pas été d'aller chercher Gattuso?
C'est pas une erreur en soi, mais c'est une erreur avec cet effectif-là.
Ouais.
On le voit quand Gattuso est arrivé, je me suis dit ça va le faire, ça va, la mayonnaise va prendre. Mais tu te rends compte qu'en fait, tu as un problème entre ce que l'entraîneur veut, le style de jeu de l'entraîneur, ce que l'entraîneur veut proposer et ce que les joueurs sur le terrain sont capables de proposer. C'est un effectif talentueux, comme l'a dit Max. C'est un effectif qui, normalement, sait jouer au ballon, mais ils n'arrivent pas à concilier, pardon, le fait de jouer au ballon, faire du beau football et avoir l'intensité, le pressing pendant 90 minutes.
Et toi, Max, tu penses quoi? Genre, je repose ma question. Est-ce que c'est un recrutement qui n'a pas été bon ou c'est le choix du coach pour remplacer Marcelinho qui n'a pas été bon?
Moi, je trouve que le mercato est même bon. Parce que c'est vrai qu'aller chercher des joueurs comme Ismaïla Sarr, comme Renan Lodi, comme Illiman Ndiaye, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils ont été chercher des joueurs plutôt très intéressants. On a vu que Vitinha avait du mal la saison dernière, et donc ils sont allés chercher et Pierre-Emerick Aubameyang et Illiman Ndiaye. Donc je trouve que franchement, au niveau du recrutement, c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent et moi, je voyais l'OM faire une belle saison parce que justement le mercato était réussi. Après, en parlant du coach, je trouve que pour Marseille, il faut quand même quelqu'un qui puisse porter une voix et une parole assez forte auprès du joueur. Connaissant Gattuso en tant que joueur, je pensais que ça l'aurait fait parce que c'est vrai que on l'a vu avec certains coachs auparavant, les Sampaoli qui ont pu être à Marseille. Des mecs comme ça qui avaient un petit peu des couilles, on va le dire, ça marche à Marseille, en tout cas sur une petite période. Donc c'est vrai que franchement, j'ai du mal à voir de quoi vient le problème. Peut-être, comme le dit Steve, c'est la physionomie du coach qui ne va pas avec l'effectif qui est en place. Mais après, dans ce cas-là, il faudra prendre un autre coach, mais un coach qui a quand même cette capacité à pouvoir diriger non club, mais Marseille. Parce que diriger Marseille, c'est pas diriger un club.
Ouais, à Marseille, t'as les ultras qui s'imaginent président de club, donc c'est compliqué de gérer tout ça. Mais c'est vrai que ouais, le problème, c'est pas Gattuso, parce que Gattuso est un bon coach, c'est que il lui manque un mec qui a des couilles. Donc on verra bien ce que Don Pablo Longoria va sortir de son chapeau au mercato estival. Est-ce qu'il va faire des départs? Est-ce qu'il va oser changer d'effectif en cours de saison? Est-ce qu'on va recruter un mec qui a du coffre, qui a des couilles au milieu de terrain pour à la fois pouvoir gueuler sur la défense et pouvoir rappeler ses offensifs. J'espère vraiment qu'on va récupérer un gros 6 ou un gros 8 au milieu de au mercato d'hiver. Parce que sinon, Marseille, ça va jouer milieu de tableau. Et si on arrive à choper une place européenne la semaine prochaine, c'est inespéré.
Ok.
Mais regarde, t'as quand même des joueurs au milieu de terrain. Quand tu prends Kodogbia, quand tu prends Pape Gay qui va revenir de suspension, Valentin Rongier qui est blessé, Veretout, enfin, il y a du monde quand même. Unai qui peut jouer aussi. Il y a quand même énormément de milieux avec pas loin
Harit
de.
en milieu
Oui.
offensif.
Non,
Mais
milieu de terrain, même
c'est des bonhommes.
défensif. Du Kondogbia, du Gueye, du Rongier, du Veretout, c'est pas mal. Et du Unai qui n'est pas forcément 10. Il y a quand même du milieu, soit défensif, soit du milieu central, du 6, du 8. Tu as quand même 5 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, ce qui est pas mal pour l'Olympique de Marseille,
Non,
avec des gros noms et des joueurs qui ont des qualités.
on a un bel effectif, hein. Ça, y a pas de nier, mais en fait, malgré ce bel effectif, comment t'expliques la physionomie actuelle? C'est qu'il te manque quelque chose. Il te manque un mec, soit qui est plus vocal, soit il te manque un vrai leader, un vrai capitaine, pour entre guillemets, amener l'équipe où Gattuso le souhaite. Donc, est-ce que ça passe par un gros buteur ou est-ce que ça passe par un gros 6? Dans tous les cas, il faut changer un truc parce que Vitinha ça marche pas. Ndiaye, c'est très bien, c'est beau, c'est technique, mais ça marche pas non plus. Faut lui laisser le temps, d'accord, parce que c'est pas la Championship, c'est différent. Mais il faut changer un truc en hiver parce que tu peux pas laisser un club comme Marseille être à 3 points de lanterne rouge en fait.
Ok,
Ça c'est
ok,
évident.
ok. Du coup, on va faire le lien parce que tu parlais de capitaine, parce que de l'autre côté, on a un Stade Rennais qui se présente avec un nouveau coach, un coach qui a fait quand même des choix très très forts, déjà qui a changé de capitaine, donc Bourigeaud n'est plus capitaine, c'est Mandanda, et aussi qui a fait des choix forts au sein de l'effectif. Blas sur le banc, il est parti, ouais, donc il a mis Blas sur le banc, il est reparti avec un milieu à 5, ou, pardon, une défense à 5, ou une défense à 3, ça dépend des points de vue. Moi, je préfère dire un 3-4-3. Assignon aussi sur le banc, Omari qui était absent, qui avait à faire son retour. On a vu un Bourigeaud buteur et passeur lors du dernier match, d'ailleurs qui a été élu homme du match. Hein, il fait un très bon match, hein, même défensivement. Un Goury qui est de nouveau buteur. Est-ce qu'on peut parler actuellement d'effet Stéphan, comme on le voit quand il y a un nouveau coach, les joueurs se montrent, les joueurs sont voilà sur une nouvelle énergie. Max, je te lance dessus. Est-ce qu'il y a l'effet Stéphan? Est-ce que cet effet Stéphan va pouvoir marcher face à Marseille?
Effet Stéphan, effet nouveau coach, on va dire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau coach dans un club, les joueurs essayent de se montrer un petit peu pour avoir un petit peu de crédibilité et de pointer le bout de son nez, on va dire. Après, est-ce qu'il y a un effet, c'est compliqué de le dire parce que voilà, ça fait quand même très peu de matchs. Il a changé les choses. Moi, je suis assez d'accord avec son dispositif parce que c'est vrai que, comme je le relève depuis le début de saison, c'est qu'il n'y a pas de joueur percutant à Rennes. Il n'y a pas d'ailier, comme il peut y avoir le Sarr, par exemple, à Marseille. C'est que de jouer dans un 4-3-3 comme ils avaient l'habitude de jouer, sans vrais ailiers, c'est compliqué. Là, et donc du coup, il y avait énormément de monde au milieu de terrain, sans avoir de la profondeur. Donc c'était très compliqué de déstabiliser l'effectif adverse parce qu'il n'y avait pas du tout de largeur. Et donc du coup, tout le monde était resserré au milieu. Donc trouver un espace dans ce milieu, c'est très compliqué. Là, le fait d'ouvrir avec les deux pistons qui étaient Truffert et Bourigeaud, et là il peut y avoir également Assignon qui peut jouer à ce poste-là, ça va justement élargir le bloc adverse. Et quand on a des joueurs comme Terrier ou Guiri ou d'autres qui peuvent jouer sur les ailes, mais un peu renfermés, parce que c'est pas réellement un 4-3-3. Il le fait en 4-3-3, mais avec la
Trois,
pointe
quatre,
qui est
trois.
vraiment devant. 3-4-3, pardon. C'est pas vraiment un 3-4-3 au sens pur du terme parce qu'il n'y a pas deux ailiers devant. En fait, les ailiers sont vraiment recentrés. C'est plus un 3-4-2-1 avec
OK.
deux numéros 10 un petit peu
OK.
que sont Terrier et Guiri. Et c'est vrai que à ces postes-là, c'est intéressant parce que ces deux joueurs qui sont normalement dans ce 3-4-3 des ailiers sont deux joueurs qui rentrent et qui vont laisser la place aux pistons pour vraiment déborder et élargir le bloc adverse. Donc c'est entre guillemets ce qui pouvait être intéressant à faire parce qu'on voyait qu'une défense à 4 c'était compliqué, il y avait énormément de faiblesses défensives à Rennes. Le fait de rajouter un central, si ça peut arranger les choses défensivement, pourquoi pas.
Ouais, et puis j'ai pensé à toi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu avais souvent dit par rapport à Rennes, qui manquait des ailiers depuis le départ de Doku, hein, quelqu'un de percutant sur les côtés. Et quand j'ai regardé ce match de Rennes contre Reims, surtout le deuxième but, où tu le vois, décalage sur le côté gauche, où tout se passe en une passe, et Terrier qui du bout du pied décale Bourigeaud qui est complètement seul sur son côté, et tu le vois, même le côté droit est complètement vide, hein. L'équipe rémoise a été complètement aspirée sur leur côté droit, le côté gauche on va dire, en fonction de là où on se place, et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à toi en voyant ça, en me disant ah ouais, bah voilà, ils ont enfin retrouvé comment réutiliser ces couloirs. Alors, enfin, on ne sait pas si dans la durée ça a fonctionné, mais c'est vrai quoi, ça m'a fait, en tout cas, ce deuxième but m'a fait penser à toi. Toi, cette équipe rennaise, hein, donc je le rappelle quand même, qui met fin à une série de 5 matchs sans victoire. Comment tu penses qu'elle va pouvoir se comporter face à cette équipe marseillaise, hein, qui sont donc deux dynamiques différentes? Pareil, est-ce que tu penses que cet effet nouveau coach, cet effet Stéphane, Steve, va pouvoir mettre à mal cet Olympique Marseille qui est actuellement très fébrile?
Oui, je le pense parce qu'on l'a vu contre Reims. Quand tu mets tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions, ça marche. C'est facile le football, hein. Tu fais jouer ton meilleur joueur là où il aime bien jouer et ça marque des buts et ça fait des passes décisives. Tu remets Bourigeaud dans un demi-espace, piston droit, qu'il apprécie parce qu'il a le jeu devant lui, il peut centrer, il peut bien passer, il a l'espace pour se déplacer. On le voit, ça met un but, ça fait une passe D, c'est propre, match parfait. Gouiri qui retrouve le chemin défilé parce qu'il est lui aussi mis dans des dispositions qu'il apprécie. Donc ouais, comme l'a dit Max, ce 3-4-2-1, est très costaud côté René, va faire beaucoup de mal, je pense. Je pense qu'on pourrait revoir le Rennes rouleau compresseur qu'on a vu la saison dernière et la saison encore d'avant, parce que maintenant tu vois que les joueurs sont là où ils devraient être. Désiré Doué, pareil, va pouvoir s'éclater dans ce milieu où tu as plein d'espace devant lui et où il peut orienter le jeu, où il peut prendre la vitesse, etc. Face à cette défense marseillaise qui parfois est un peu fébrile, est un peu faible mentalement, je pense qu'on va avoir un festival au moins de tirs, peut-être pas de buts parce que Paulo Lopez est très bon sur sa ligne, mais on va avoir pas mal de tirs et on va avoir du beau football ce week-end côté Rennais.
Du coup, vous attendez quoi en termes de composition? Parce que Gattuso, il a quand même fait un choix fort au dernier match en mettant Aubameyang sur le banc. On a vu que Stéphane aussi, alors il a fait des choix forts aussi, hein, exit Blas, exit Assignon qui était titulaire avec Pep Genesio. Je vais commencer par toi, Max. À quel type de compo tu t'attends, que ce soit du côté de Rennes ou Marseille, voilà, rapidement?
Je trouve, on va commencer par ceux qui sont à domicile, donc Marseille. Je pense que déjà la défense à 4 ne va pas changer. Je trouve que c'est une défense à 4 qui marche bien. Les Lodi, Mbemba, Gigot, Klose. Je pense qu'on va rester sur cette défense à 4 là qui est plutôt bonne. Au milieu de terrain, je vois un milieu avec Kondogbia-Veretout, un numéro 10 qui pourrait être Harit. Et après, offensivement parlant, je verrais bien Ismail Assar d'un côté. Pourquoi pas Imanien Ndiaye aussi, qui puisse être titulaire. Et retenter Aubameyang qui, on va dire, va avoir l'expérience des grands matchs. Donc, on peut prendre un Marseille-Rennes comme un grand match. Donc, je pense que, voilà, à mon avis, on peut se diriger sur ce 4-5-1 comme ça pour Marseille. Et pour Rennes, je vois bien donc la défense à 3 qui va rester, hein, Théâtre, Omari, Wu. Sur les côtés, il fait énormément confiance à Truffert, et c'est vrai qu'il y a personne d'autre sur le côté gauche. Donc Truffert à gauche, un milieu de terrain, Lefebvre Matic, comme il l'a fait déjà auparavant. Bourigeaud sur le côté droit, en piston. Et après, devant, je verrai Terrier avec Guiri et Kalimuendo en pointe.
Ok. Kalimundo aussi qui fait un match assez intéressant, même s'il marque pas. C'est lui qui fait la fausse feinte sur le premier but, on va dire. Toi, Steve, tu t'attends à quoi comme compo, que ce soit du côté marseillais ou du côté rennais?
T'es gentil pour la feinte de quand
Côté marseillais, je m'attends à quelques changements. Déjà, exit Balerdi et le retour de Gigot. Après, Vitinha, j'ai bien lui laisser le temps, mais à un moment, faut arrêter aussi. Donc, du coup, je vois Ndiaye, pardon, en pointe. Et peut-être mettre Aubameyang sur une aile pour essayer d'apporter un peu plus de profondeur, même s'il a plus trop ses jambes depuis le début de saison, comme on peut le voir. Et Correa remplacé pour Sarr.
Ah, toi,
En
tu
vrai, parce
vois
que.
Coréen.
Ouais.
Coréen, il a pas été bon en plus hein, au
Non,
dernier
non, non,
match.
non, non, non. On vire Correa et on met Sarr.
Ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok.
Voilà, parce que. Et peut-être Rongier, parce que d'après les journalistes, il serait dans le groupe pour l'Ajax. Donc,
Ok.
si est dans le groupe pour l'Ajax, à la place de Veretout, peut-être Rongier.
Ok, ce serait un retour vachement tôt
Trois
quand même,
millions.
hein, puisque
Il y en a besoin.
ouais, c'est sûr, hein, on l'attendait plus pour 2024.
Ouais, mais
Ce
d'après
serait assez.
ce que j'ai vu, après, peut-être que c'est des rumeurs qui seraient fausses. J'ai pas eu trop le temps de vérifier la source. Mais à ce qui paraît, il serait dans le groupe pour l'Ajax. Donc, du coup, s'il est dans le groupe pour l'Ajax, il pourrait être de retour
Ok,
ce week-end.
ok, ok.
Et
Et du
côté
côté.
rennais, je m'attends quasiment à la même équipe. Parce qu'on ne change pas une formule qui gagne. Peut-être Gouiri en pointe à la place de Kalimuendo et peut-être Désiré Doué sur un côté. Parce que c'est un joueur qui est très versatile et qui peut se fondre parfaitement dans la défense marseillaise.
Ok. Et au niveau du score, vos prédictions un peu?
Vas-y Max,
Honneur à toi, Steve.
réfléchis et comme ça je pleure.
Bah,
Vas-y, sans pleurer tout de suite. Alors,
je commence si vous voulez, comme ça vous réfléchissez un
allez,
peu. Parce
vas-y.
que moi, je pense que il y aura toujours l'effet Stéphan. Je pense que Marseille est dans une mauvaise dynamique actuellement et je pense que cette dynamique va continuer à la différence d'un Rennes qui pour moi je trouve a une je trouve que même Rennes n'était pas mauvais avant même sous Pep Genesio je trouve qu'ils étaient pas mauvais mais ils ont manqué de d'une certaine régularité sur 90 minutes ce qui les empêchait bah voilà de maintenir le score donc moi je vois une victoire rennaise 2-0 avec un but de Kalimuendo et je vois bien un petit but de Blas en sortie de banc pour dire je suis toujours là ouais n'oubliez pas quoi.
Ok,
Ouais, moi je
ok, ok.
m'attends. Allez, moi je dis 2-2.
Ouf.
Mais avec un but marseillais dans les dernières minutes, tu sais, c'est ce genre de but où t'as le vélodrome qui est en train de trembler et qui attend un but et coup de tête vengeur d'un gigot ou d'un chancel dernière minute. Donc ouais, je m'attends à un petit 2-2. Côté rennais, je dirais but de Gouiri et but de Bourigeaud, il a l'air en jambe, Bourigeaud. Pourquoi pas un petit but de Bourigeaud. Et côté marseillais, un petit but de soit de Chancel, soit de Gigot. Tu sais, genre un gros coup de casque vengeur dernière minute. Et un but de Clauss.
Ok. Toujours pas de but des attaquants marseillais, quoi.
Bah, Toujours pas, et je pense qu'on va les compter en fin de saison. On va se dire, ah,
Ok,
il a mis 5 buts, c'est cool.
et toi, Max?
Eh ben moi je dirais que un but partout. Je dirais un but partout parce que c'est vrai que c'est compliqué d'aller gagner au Vélodrome. Très compliqué. Donc je vois pas Rennes aller gagner au Vélodrome. Surtout pour un dimanche soir. Ils n'ont pas l'habitude de jouer le dimanche soir, ça leur réussit pas forcément régulièrement. Et donc au niveau des buteurs, je miserais sur un Guiri pour Rennes. Un but partout, Guiri pour Rennes et Kondogbia pour Marseille avec une belle frappe de loin.
Ok, plutôt pas mal. Bah, merci messieurs pour voilà vos petites prédictions. On va revenir maintenant sur l'actualité de la semaine, hein, donc une actualité qui a été très très chaude même aujourd'hui. Alors c'est simple, Laurent Blanc, Grosso, Marcelinho, Bruno Genesio, Aristou. Ce sont les coachs qui ont été démis ou qui ont quitté leurs fonctions depuis le début de l'année. Donc ça fait déjà pas mal. On est déjà à 5 coachs qui ont quitté leur club. L'année dernière, à la fin de l'année, il y a 13 coachs qui ont soit été démis de leurs fonctions ou qui ont quitté leur club. Est-ce que pour vous, bah, c'était logique, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Est-ce que pour vous, qui sont les futurs coachs, bon, on pourra en parler dans une deuxième question, mais les futurs coachs qui vont sans doute tomber d'ici à la mi-saison. Allez, Steve, on commence par toi. Toi, tu penses quoi déjà de ces évictions? Est-ce que pour toi, enfin, éviction, démission, est-ce que c'est pour toi, c'est une bonne chose pour la Ligue?
Bah, c'était des changements nécessaires. Quand tu vois l'état de Lyon, quand Lolo White est viré, tout le monde se dit ouais, bah, c'est ce qu'il fallait. Même lui le disait, c'est ce qu'il faut, il faut changer de coach, etc. Par contre, j'ai juste pas compris la nomination de Gourvennec à la tête de Nantes. Je pense que ça va faire plaisir à notre ami Alex, mais j'ai pas compris pourquoi en fait tu changes de coach comme ça quand ton équipe c'est pas si désastreux. T'es certes 11e, mais c'est pas non plus ridicule. Donc parfois, Valdemar Quittard nous habituait à des choses pas très compréhensibles, et Gourvennec en est une. Mais sinon, en général, les changements sont normaux et sont attendus et tout à fait logiques pour l'instant.
Ok, et toi, Max?
Je trouve que pour Lyon, c'est malheureusement logique, parce que c'est vrai qu'on voit la place de Lyon, on voit l'effectif de Lyon, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont pas à leur place, au vu de leur effectif, donc il fallait changer quelque chose automatiquement. On en avait parlé la dernière fois déjà par rapport à Rennes et Genesio, je suis pas sûr que ça soit le choix du club, donc là c'est plus un choix du
Ouais,
coach
perso.
qui avait envie de changement, donc c'était pas forcément une obsession et une volonté de la part du club. Donc sur les 5 qu'il y a pu avoir, il y en a déjà eu 2 à Lyon, un à Marseille, un à Lyon et un à Rennes pardon et à Nantes. Après Nantes, ouais, c'est vrai que le départ du coach, je le comprends pas forcément non plus. Ils ont pas le meilleur effectif de Ligue 1, ils sont pas en danger non plus. Donc pourquoi changer? Peut-être que ça le faisait plus non plus avec le président. Il y a peut-être eu cette histoire-là. Donc
C'est pas tant changer que changer pour Gourvennec.
Ouais, après,
Après,
on sait très
tu
bien en
recrutes pas un
France
gros
comment
coach,
ça
hein.
se
Tu
passe.
recrutes Gourvennec qui est connu pour avoir un jeu mais catastrophique. C'est con parce que Nantes, t'as un bel effectif. T'as un effectif qui est joueur, ça joue le ballon. Et là, tu vas avoir Gourvennec sur le banc.
Ouais, mais
Ça dépisse, hein.
ça m'étonne peu, tu vois. Enfin, franchement, on sait très bien comment ça se passe en Ligue 1. C'est tout le temps
Oui, c'est toujours
la
le même
valse des
coach. Ouais.
coachs, un tel qui part, un tel qui arrive, il y a lui qui est libre, bah, il va aller dans tel club, bah, lui du coup il prend la place de lui, donc bah, c'est l'autre qui arrive. Ça m'étonnerait pas de voir Antonetti arriver, parce que bon, bah, il a fait sa chose à Canal+, sauf que bon, maintenant il faut trouver un club. Puis il y aura le pompier Duprat qui va arriver, parce qu'il faut aller en sauver un avant la fin du championnat. Bah,
On va
c'est
se
tout le
retrouver
temps les
avec
mêmes.
Camboiré à Lyon.
Pardon?
On va se retrouver avec Camboiré à Lyon. Ouais,
Bah,
c'est ce que je veux dire.
Lyon, il y a de la place, donc pourquoi Genesio ne reviendrait pas? Il y a ça aussi.
Ou tu penses?
Genesio pourrait venir à Lyon.
Avec les
Pourquoi
déclats
pas?
de l'année dernière et les déclats un peu, les culs que ça se lance par médias interposés, tu penses vraiment qu'il y aurait un retour de
Ben,
Genesio possible? Après,
moi, en fait,
dans le
je le
foot, il n'y a
vois
pas
pas
d'âme, ça c'est
impossible.
vrai, mais.
Je le vois pas impossible. Parce que, oui, c'est je t'aime pas moi non plus, mais des fois, bah, il peut y avoir des choses qui se font. Les pires ennemis peuvent devenir les meilleurs amis.
C'est comme Essien, il s'est viré après une défaite à Lyon, il arrive à Lyon comme un sauveur.
Lyon est tellement mal, en
Le
fait,
foot romantique.
qui est-ce qu'ils vont aller chercher? Ils vont aller chercher Bielsa, Tudor, qui ont été à Marseille, ou un Genesio pour essayer de construire quelque chose avec un bel effectif. Moi, franchement, à la place de Lyon, en tout cas, j'irai le chercher vu le travail qu'il a fait à Rennes.
Bah, surtout qu'en plus Lyon ils ont quand même changé au niveau de la direction, hein. C'est plus Aulas, voilà, t'as un nouveau président, là il a recruté non, c'est à Marseille qu'ils ont recruté un nouveau directeur du sport, mais non, ouais, t'as Prud'homme qui est arrivé en directeur du sport à Lyon. On parle aussi d'un Juninho en directeur sportif qui potentiellement pourrait revenir. Donc tu sens que voilà, ça a quand même changé au niveau de la direction, donc voir revenir Pep Genesio, ouais, ça serait pas déconnant. Et vous, enfin voilà, on arrive bientôt à cette trêve, hein, cette trêve hivernale, hein, milieu de championnat. On prédit que certains entraîneurs pourraient sauter. Moi, j'ai mis quelques noms de côté qui voilà pourraient potentiellement sauter. Pascal Gatien, Clermont. Régis Lebris qui a déjà failli partir en début d'année pour Nice, mais finalement ça s'est pas fait. Est-ce que vous voyez, alors est-ce que je me trompe ou est-ce que vous voyez d'autres coachs? Dites-moi tout, Max. Toi, t'en penses quoi?
Bah, il y en a plusieurs hein, qui vont être sur la sellette. Hein. Tu l'as dit, Pascal Gatien, Régis Lebris. Après, il y aura quand même aussi celui de Toulouse, Carles Martinez
Novel?
Novel, parce que c'est pas forcément top ce qu'il propose. Gattuso, à un moment, c'est pareil. Si ça s'améliore pas à Marseille, il va à un moment se faire virer. Je verrais bien aussi les mauvaises perfs de Strasbourg qui peuvent coûter cher à Patrick Vieira. Parce que je suis assez déçu de la part de Strasbourg qui pour moi a fait un énorme mercato, qui a dépensé énormément d'argent et qui avait des belles ambitions et qui malheureusement ne sont pas du tout bien au niveau du classement. Donc oui, Régis Lebris pourrait potentiellement être le premier en fonction des résultats qui arrivent. Mais après, oui, il y en a plusieurs hein, qui vont sauter. Hein. La trêve hivernale, il n'y a pas le droit de virer les gens des appartements, mais par contre, au niveau des classes.
Et toi, Steve, t'en penses quoi?
Bah
Enfin,
déjà
tu vois qui?
Grosso.
Ouais, bah
Grosso,
ouais,
il va
c'est
sauter
fait.
aussi. Hein,
Mais c'est fait,
ça,
Grosso.
c'est sûr. C'est fait?
Ouais, c'est fait. Il était mis,
C'est fait,
enfin, en tout
Grosso,
cas,
c'est fait.
il a été mis à pied. Donc, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais il a été mis à pied. C'est Pierre Sage qui prend l'intérim. Mais c'est fait, quoi. C'est de
Ok,
l'administratif,
donc
quoi, maintenant.
bah voilà, c'est déjà fini. Gastien, ouais, comme tu l'as dit, hein, clairement c'est catastrophique et donc du coup il passera pas l'hiver. Régis Lebris, une défaite à Toulouse pourrait être la défaite de trop et ça pourrait être la fin même avant l'hiver. Après il y a peut-être Dar'Zakarian qui pourrait être un peu mis en danger côté de Montpellier. Montpellier qui a peut-être pas l'effectif le plus pléthorique, mais ils sont eux aussi qu'à 2 points de Lanterne Rouge et à 6 points de Lyon. Donc du coup, ouais, peut-être que Dar'Zakarian pourrait être un peu mis en danger aussi. Après, c'est facile de pointer du doigt tous les derniers de Ligue 1 et dire que c'est possible. Hein. Mais va y avoir pas mal de changements, mais le problème, c'est qui va arriver sur les bancs, en fait. C'est ça le truc, c'est que avec des résultats désastreux comme Lyon, comme Lorient ou comme Clermont, tu vas attirer qui, en fait, comme coach? Et est-ce que changer de coach dans ces moments-là ne te ferait pas rentrer encore plus dans une mauvaise dynamique? Parce que derrière, tu as un coach qui soit est mauvais, soit n'a pas les épaules ou n'a pas l'ambition pour ton club.
Ok, bon bah sur ces belles paroles, messieurs, on va se quitter. Alors déjà, je vous remercie hein, de m'avoir accompagné hein, pour cette 12e épisode et parler de cette 14e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Je vous remercie à tous d'écouter nos podcasts toutes les semaines, en espérant que ça vous aide à faire vos choix tous les week-ends sur les matchs à regarder et sur vos différents choix sportifs, on va dire. N'hésitez pas, voilà, à nous écouter sur toutes les plateformes, podcast, Spotify, Deezer, Apple Music. N'hésitez pas à nous liker sur Twitter et sur Instagram. On vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine journée. Passez un très bon week-end de foot dans le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Au revoir.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.